peu dans certains principes de la théologie pour communiquer avec clarté la parole de Dieu. C'est vraiment la parole vivante de Dieu. Elle est proclamée à des esprits. Parce que vous êtes d'abord des esprits. Vous habitez dans un corps. Vous êtes des esprits. Et donc quand je parle à des esprits. Je parle au monde des ténèbres. Je proclame la parole de Dieu. J'arrache ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi pour les amener dans la maison de Dieu, pour les amener dans la lumière du Seigneur. C'est un enjeu important, un enjeu très important. Le thème que Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce matin, et je prie Dieu que ce soit vraiment un thème qui va vous rejoindre et va vous bénir, c'est un vin nouveau pour des outres neuves. Un vin nouveau pour des outres neuves. Nous allons argumenter notre message autour de Marc 2, 18 à 22. Je vais essayer de parler doucement parce que bon, je n'ai pas envie de crier. Il y a un frère qui s'est plaint que je parlais tellement fort que ça... Donc je vais essayer de parler doucement. Ça va être difficile, mais je vais le faire. Donc Marc 2, du verset 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. » Verset 20, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emportera une partie du vieux et la déchirure sera pire. » Verset 22 qui m'intéresse ce matin, « Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité sur notre sentier. Notre désir, c'est de marcher à la lumière de ta parole. Notre désir, c'est d'être éclairé dans notre marche avec toi, en étant confronté aux vérités de ta parole. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, viens nous éclairer, viens nous parler, que ta parole trouve une terre fertile ce matin, que ta parole trouve un cœur favorable, Seigneur, et qu'elle puisse nous permettre, Seigneur, d'avancer sur le chemin de notre destinée, au nom de Jésus. Amen. Je pense que la saison dans laquelle nous sommes en train de vivre, la saison dans laquelle Dieu est en train de nous introduire, sera caractérisée par un débordement de vin nouveau. La saison que Dieu dans laquelle veut introduire le carrefour des nations sera une saison de débordement du vin nouveau. Et ce débordement du vin nouveau sera caractérisé par un certain nombre de choses. Nous aurons beaucoup plus de miracles. Nous aurons beaucoup plus de manifestations du Saint-Esprit. Nous aurons beaucoup plus de conversions. Nous aurons beaucoup plus de restauration de vie. Nous aurons une effusion de plus en plus grande de l'Esprit de Dieu. Nous aurons une effusion de plus en plus grande de la puissance de Dieu. Le désir de Dieu, par rapport à ce qu'il veut répandre comme vin nouveau, est que ta vie déborde de ce vin nouveau. Que ta vie déborde de cette huile fraîche. Est-ce que vous aspirez à cela? Avoir cette huile fraîche de la présence de Dieu. Cette huile fraîche qu'il est là, qu'il est au milieu de nous, qu'il restaure tes craintes, qui t'enlève tes peurs. Cette huile qui déborde, qui enlève tous les jougs de ta vie. Mais bien aimé, lorsque le vin nouveau déborde dans ta vie, il y a quelque chose qui change. Quand le vin nouveau déborde sur ta vie, aucun joug, aucune limitation, aucune persécution, aucune épreuve ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. J'aimerais que tu le retiennes ce matin. Quand le vin nouveau vient déborder, je dis bien déborder dans ta vie, rien ne peut t'empêcher d'entrer dans ton miracle. Rien. Le vin nouveau. Quand le vin nouveau est dans ta vie, tu peux expérimenter la joie de Dieu, même dans les épreuves les plus rudes. Quand le vin nouveau est dans ta vie, quand le vin nouveau déborde sur ta vie, tu quittes le stade de victime des circonstances pour être un vainqueur en Christ. Quand le vin nouveau déborde, nous avons besoin de cela, mes bien-aimés. J'ai besoin du vin nouveau, du débordement du vin nouveau dans ma vie. Lorsque le vin nouveau déborde dans ta vie, plus tu es oppressé par l'ennemi, plus tu es oppressé par l'enfer, plus ta vie manifeste Dieu. Quand le vin nouveau déborde sur toi, et Paul le dit très bien dans 2 Corinthiens 4, 8, il dit ceci, nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés, mes bien-aimés. Lorsque vous acceptez de suivre Jésus, de marcher dans l'obéissance avec Jésus, vous êtes pressés de toutes parts. Vous êtes oppressés, oppressés de toute manière. Mais il dit, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. On est persécutés, mais non abandonnés. On est conscients que malgré ce que nous sommes en train de vivre, Dieu est à nos côtés. Le roi des rois est à nos côtés. C'est le vin nouveau qui déborde dans ta vie, qui te permet d'entrer dans cette dimension de compréhension que Dieu est avec toi dans des situations les plus difficiles. Quand le vin nouveau déborde dans ta vie, plus tu es dans des situations périlleuses, plus la gloire de Dieu se manifeste à travers ta vie. Paul a expérimenté cela. Il était tout le temps dans des périls, tout le temps dans des situations difficiles où la mort était toujours proche. Mais il était conscient d'une chose, celui qui l'a appelé est fidèle. Celui qui l'a appelé lui a donné un mandat. Et tant que ce mandat n'était pas accompli, il n'allait pas mourir. Qu'il y ait coronavirus ou pas, tant que le mandat que Dieu a mis sur ma vie n'est pas accompli, je ne mourrai point. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ceux qui débordent d'un vin nouveau ont cette réalité sur leur visage. Ils ont cette réalité dans leur mode de fonctionnement. Quand tu débordes du vin nouveau, les gens peuvent te prendre même pour un fou. Parce que ce qui les terrorise, ce qui leur fait peur, ne te fait pas peur. Ne te fais pas peur. Parce que tu sais que le roi de gloire est à mes côtés. Voyez l'histoire de David. David, un jeune homme, de rien du tout, va donner de la nourriture, des vivres à ses frères qui sont au front contre l'armée des Philistins. David n'a pas considéré son jeune âge. Il s'est avancé au milieu de l'armée aguerrie, de l'armée qui était formée. Il s'est avancé au milieu d'eux et il a constaté que l'armée de Dieu était tétanisée face à Goliath. Excusez-moi, je reprends à parler fort. Il est tétanisé. Désolé, mais c'est moi. Il est tétanisé. Tétanisé. L'armée est là. Goliath leur dit, mais si vous avez un vainqueur au milieu de nous qui vienne me confronter et on va voir qui sera le plus fort. Et ils sont là, ils ont peur, ils ont peur. Ils se demandent, mais qui va aller? Tout le monde, imaginez l'armée, toute une armée avec le roi qui est là. Ils ont peur d'affronter Goliath. Il était grand, fort, oui. Mais David considérait qui marchait à ses côtés. Il savait à qui il avait cru. Il savait que Dieu, le Dieu qu'il avait sauvé de la gueule du, qu'il avait sauvé lorsqu'il était confronté au lion, à l'ours, qu'il a arraché les brebis qu'il gardait de la bouche de ses bêtes, ce Dieu qui a été avec lui pourra lui permettre de vaincre également ce géant. Et la Bible dit qu'il s'est renseigné. Mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va vaincre ce gars-là? Il a été motivé. Il sait qu'il y a une onction sur sa vie. Il sait que quelque chose a été dit sur sa vie. Et il s'est dit, là, j'ai l'opportunité de manifester ce que Dieu a mis au-dedans de moi. Alléluia. Et il s'est avancé vers Goliath. La Bible dit qu'il a couru. Je ne sais pas si toi tu peux courir face aux situations que tu vis. Il a couru vers Goliath avec sa fronde. Et il lui a mis ça au front. Il n'a pas attendu que Goliath vienne. Il a couru pour vaincre Goliath. Ce qui effrayait les autres n'effrayait pas David. Parce qu'il débordait de ce vin nouveau. Quand le vin nouveau déborde dans ta vie, une nouvelle détermination t'anime. Un nouveau zèle t'anime, te caractérise. Un amour profond de Dieu t'habite. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne peux pas rester muet. Tu ne peux pas rester comme, je sais pas, comme un Suisse. On loue le Seigneur, tu es. Que ton règne vienne. Mes bien-aimés, ne soyons pas calmes comme les Suisses. Mais manifestons la gloire de Dieu lorsque nous louons. Quand tu dis que ton règne vienne, on doit sentir, même si tu n'as pas une voix forte, que ça vient de tes tripes. On doit sentir ton engagement dans la louange. On doit sentir que c'est une réalité que tu vis, que tu veux vivre, dans laquelle tu veux entrer. Que son règne vienne. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne peux t'empêcher d'exprimer cette passion qui t'anime. Parce que le vin nouveau déborde dans ta vie. Mes bien-aimés, je parle ce matin d'un vin spirituel. Je ne parle pas du vin que tu peux acheter à la SAC. Peu importe sa nature, d'où il vient. Je parle d'un vin spirituel, comprenez-moi bien. Ce matin, je ne fais pas de l'incitation à boire du vin naturel. Ce matin, je t'incite à boire un vin spirituel. Que ce vin spirituel déborde dans ta vie. Les disciples de Jésus ont bu de ce vin à la Pentecôte. Et on nous dit en Actes 2, 13, que ceux qui les voyaient disaient qu'ils étaient pleins d'un vin doux. On les accusait d'être ivres d'un vin doux. Le petit vin du matin, là. Le vin doux. Mais ils n'avaient pas de vin doux. Ce jour-là, ils étaient remplis d'un vin nouveau. Éphésiens 5, 18 déclare ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Lorsque tu es sous l'influence du vin ordinaire, tu es poussé à poser des actes qui vont te déshonorer et déshonorer ta famille, déshonorer ton épouse. Tu es sous influence de quelque chose qui va nuire à ta vie. Mais lorsque tu es sous l'influence du vin nouveau de Dieu, tu poses des actes de justice, tu poses des actes qui produisent la paix, tu poses des actes qui amènent la gloire de Dieu. Tu fais des exploits avec Dieu. En cette saison, en cette nouvelle année académique, Dieu veut faire déborder dans ta vie ce vin nouveau qui fera jaillir dans ton cœur la joie comme je l'ai dit tout à l'heure, au milieu des épreuves, l'action de grâce, même quand les circonstances sont difficiles. Ça me rappelle l'histoire d'un frère qui avait perdu un pasteur, vraiment qui me bénit, qui avait perdu ses enfants, ses jumeaux. Et lorsqu'il était dans sa voiture, plein de sentiments jaillissaient en lui. Le diable a commencé à l'accuser. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi, que tu n'es pas un pasteur puissant, que Dieu n'agit pas dans ta vie parce que tes enfants sont morts? Est-ce que Dieu agit dans ta vie? Mais je bénis son attitude dans la voiture. Il dit, lorsqu'il rencontre cela, il dit, il ne sait pas combien de Kleenex il a pris pour essuyer ses larmes. Mais il a fait le choix de rendre des actions de grâce à Dieu. Il a rendu les actions de grâce à Dieu. Et pendant qu'il rendait les actions de grâce en pleurant, il rendait, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne. Pendant qu'il rendait la gloire, il a senti qu'il y avait son environnement intérieur qui changeait, son attitude changeait, sa perception des choses changeait. Mais bien aimé, lorsqu'on est envahi du vin nouveau, on n'agit pas comme tout le monde. On est dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Le vin nouveau peut symboliser beaucoup de choses. Vous verrez, lorsque plusieurs personnes vont parler du vin nouveau, ils vont prendre des orientations particulières. Même si moi, ce matin, j'aimerais suivre une certaine orientation par rapport au symbolisme que j'accorde au vin nouveau. Donc le vin nouveau peut symboliser l'action de l'Esprit de Dieu en toi. Il peut symboliser la gloire du règne de Dieu en toi. La nouvelle alliance que Dieu établit avec toi. Une alliance qui sera caractérisée par des bénédictions extraordinaires, des nouvelles opportunités que Dieu veut t'accorder par l'action de son Esprit en toi. Le vin nouveau, en fait, c'est la gloire de Dieu qui est manifeste dans ta vie. Mais pour que tu vives pleinement cette plénitude, et c'est là que je vais venir ce matin. Pour que tu vives pleinement cette plénitude du vin nouveau, il y a des manières de faire. Il y a des changements qui doivent s'opérer en toi. Il y a des changements qui doivent s'opérer dans ton cœur, dans ta manière de comprendre Dieu, dans ta manière de vivre les choses de Dieu. Il y a des changements, il y a un ménage qui doit se faire en toi. Nous ne pouvons recevoir de nouvelles bénédictions de la part de Dieu si nous ne comprenons pas qui est Dieu. Tu ne peux recevoir rien de Dieu si tu ne comprends pas qui est Dieu. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que Dieu pour toi, c'est quelqu'un qui est lointain? Est-ce que c'est un homme avec une barbe qui se situe loin et qui est prêt à te fouetter dès que tu fais une bêtise? Ce matin, j'aimerais que nous comprenions que Dieu est notre Père. Et tant que tu croiras que Dieu est ton Père, tu ne vas pas croire qu'il t'en veut, même quand tu as fait des bêtises. Dieu ne t'en veut pas. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu veut te bénir. Il veut te donner sa vie. Dieu est ton Père. Il veut te faire du bien. Il veut te remplir, te remplir, te remplir d'un vin nouveau. J'aimerais te dire comme proposition ce matin que le vin nouveau que Dieu a réservé pour nous veut être répandu dans des outres neuves. Le vin nouveau veut être répandu dans des outres neuves. Il y a des comportements, il y a des systèmes de pensée, il y a des attitudes qui ne peuvent supporter le poids du débordement du vin nouveau. Jésus disait que si nous mettons du vin nouveau dans des vieilles outres, le vin nouveau va rompre ces outres. Il y a des attitudes qui ne peuvent supporter le poids de la gloire de Dieu. Être une outre neutre est vital, mes bien-aimés. Et c'est ça que je mets dans la note ici. Être une outre neuve est vital pour accueillir le vin nouveau et pour être de ceux qui font avancer le règne de Dieu. Est-ce que tu veux être de ceux-là? Qu'est-ce qu'une outre? Est-ce que vous savez ce que c'est une outre? Un récipient. Très bien. Une outre, c'est un récipient en peau d'animaux, utilisé à l'époque pour transporter des liquides, eau, huile, vin. Elle était cousue par un bout et toutes les coutures de ce récipient devaient être soigneusement bouchées avec des poids pour qu'on puisse y mettre des liquides. Plus une outre était vieille, moins la peau qui la constituait était solide et ferme pour contenir le vin. Si le vin fermente dans l'outre, l'outre a tendance à gonfler, à se dilater. Elle se dilate et elle va perdre son élasticité. Et ainsi, elle va rompre sous la pression. Pour qu'une vieille outre retrouve son élasticité, il est important qu'elle soit trempée dans de l'eau pendant plusieurs semaines. J'ai été abasourdi quand je l'ai lu. Pour qu'une vieille outre puisse retrouver sa capacité à être élastique et à contenir du vin, il faut la tremper dans de l'eau pendant des semaines pour qu'elle retrouve son élasticité. L'eau peut symboliser ici la parole de Dieu, comme le montre Éphésiens 5, 26. Pour que nous soyons des outres neuves, renouvelés, nous devons être trempés dans la parole de Dieu pour comprendre les principes de Dieu. Et par rapport à la lecture de Marc 2, 18 à 22, j'aimerais simplement communiquer avec vous ce matin, et ça ne va pas être long, j'espère, deux principes, deux vérités. La première vérité, c'est que les vieilles outres ne peuvent contenir durablement le vin nouveau. C'est ce que Jésus dit. Les vieilles outres ne peuvent contenir durablement le vin nouveau. C'est quoi les vieilles outres? Les vieilles outres peuvent symboliser certains cœurs qui sont ancrés dans des traditions. Des cœurs qui sont ancrés dans des coutumes religieuses. Des cœurs qui sont ancrés dans ce que j'appelle le légalisme. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens légalistes. Le légalisme, c'est quoi? C'est un terme qu'on emploie pour présenter la position de certains qui met l'accent sur le respect d'un ensemble de lois, d'un ensemble de règles pour qu'on soit sauvé. Pour que tu sois sauvé, tu dois ne pas fumer, ne pas boire, ne pas t'habiller bizarrement. Quand tu viens à l'église, tu dois te tresser convenablement. Les chrétiens légalistes exigent que les gens changent avant même qu'ils ne rencontrent le Christ. Ils vont porter des jugements à leurs collègues au bureau. Tu es un pécheur. Tu vas aller en enfer. Si tu ne changes pas ta façon de parler, tu vas être fouetté par Dieu. Les chrétiens légalistes, il y en a de nombreux, souvent nous-mêmes. Moi, j'étais un grand légaliste. Hein. Je peux donc en parler librement. Si quelqu'un rentre ici avec une longue barbe, des tatouages, je vais voir vos regards, légalistes. Je vais discerner votre regard. Lorsqu'une sœur va montrer ses tatouages, on veut que les gens changent alors que ces personnes n'ont même pas encore rencontré Jésus. La notion de salut par la grâce n'existe pas pour les légalistes. La grâce de Dieu, ils ont oublié que Dieu les a sauvés par grâce. Qu'ils étaient également dans la boue du péché. Qu'ils écoutaient Mike Brown, qu'ils écoutaient Julio Iglesias. Qu'ils écoutaient la musique du monde. Ils oublient cela. Qu'ils sont passés par la boue du péché. Qu'ils ont regardé des films pornographiques. Ils oublient cela. Parce que Dieu les a transformés. Ils s'érigent dans la maison de Dieu comme des censureurs. Il y en a beaucoup. Dans les réseaux sociaux, surtout. Quand tu dis telle parole, bon, ils te bombardent. Les grands légalistes ne courent pas. Ce sont des arbitres sur le terrain. Ils ne jouent pas dans le match qui a lieu, dans le match de l'éternité qui a lieu. Ils ont le sifflet. Dès que tu cours, et puis bon, tu essaies d'être... Tu essaies d'être biche. Ils s'érigent en censeurs des autres. Mais bien aimés, nous devons apprendre à être bienveillants avec celui qui est faible. Bienveillant. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas combattre certaines hérésies. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas être un chrétien qui marche dans l'obéissance à Dieu. Comprenez-moi bien ce matin. Nous devons apprendre à être bienveillants avec ceux qui ne sont pas au même niveau spirituel que nous. C'est ce que je suis en train de dire. Et Romains 14, 1 nous le dit. Nous devons être bienveillants avec les frères, les faibles. Bienveillants. Beaucoup vont venir. J'en parle parce que beaucoup vont venir ici. Beaucoup vont venir avec des longues barbes, avec des allures bizarres. Beaucoup vont venir. Comment vont être-t-ils accueillis ici? Le cœur du chrétien légaliste est semblable à celui des disciples de Jean et des pharisiens qui ne comprenaient pas que les disciples de Jésus ne respectent pas la coutume du jeûne. Pourquoi ne jeûnent-ils pas? Ils se demandaient pourquoi les disciples de Jésus ne font pas comme eux. Pourquoi ne jeûnent-ils pas? La réponse de Jésus est assez particulière. Jésus leur fait comprendre que ses disciples ne peuvent jeûner tant qu'il est avec eux. Tant qu'il est là, les disciples ne peuvent pas jeûner. Jésus essaie de leur comprendre un principe aux religieux. Jésus essaie de le comprendre ceci. Si le jeûne est pour toi, en tant que légaliste, un exercice spirituel qui te sert à être en communion avec Dieu, si le jeûne te permet de te rapprocher de Dieu comme religieux, comprends que si Dieu est là, tu n'as pas besoin de jeûner parce que tu es en communion avec lui. Si Jésus est avec ses disciples, ils n'ont pas besoin de jeûner parce que Dieu est là. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais le religieux est attaché aux règles qu'il faut appliquer. Mais bien aimé, tant que nous sommes dans le légalisme, on est focalisé sur des choses qui n'ont pas de considération pour Dieu. On est focalisé sur l'extérieur et non sur l'intérieur. La Bible dit, transformez d'abord l'intérieur afin que l'extérieur soit comment? Net. Dieu s'intéresse à l'intérieur, à ton intérieur, pas à l'extérieur. Tu vas changer les gens à l'extérieur. Souvent, on peut le faire pour nos enfants. S'il y a quelque chose dans lequel on est souvent dans nos familles, c'est ce qu'on veut forcer nos enfants à être transformés extérieurement. Il doit porter les costumes comme papa, il doit marcher comme un chrétien quand il vient à l'église, il doit avoir une grosse Bible avec lui. On veut qu'ils aient des comportements. Il y a des enfants même qui, lorsqu'ils sont à la maison, ils vont prier en langue, kola baba, même s'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'on veut, tellement les pousser. On veut les pousser à être des chrétiens. Mais bien aimé, la Bible dit qu'enseigne la voie aux enfants. Enseigne-leur la voie juste. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Parce que c'est quand ils sont grands que les choses se déterminent s'ils sont vraiment chrétiens. C'est quand ils grandissent, quand ils quittent Québec pour aller à Montréal, hein, dans l'ambiance de Montréal, hein, quand ils découvrent les autres là-bas, c'est là-bas qu'ils deviennent vraiment chrétiens. Pas ce que tu vois là, la maison, il prie en langue. Non, c'est pas ça. C'est quand il est seul. Un frère me disait qu'il n'était pas très sûr du christianisme de ses filles. Un frère dans mon pays, un pasteur. Mais quand ses filles sont allées aux États-Unis, il était surpris. À un moment donné, elles vivaient, c'est vrai, une crise. Elles n'avaient pas de repères. Mais de elles-mêmes, elles ont commencé à chercher Dieu, à aller sur YouTube, à chercher des églises, à avoir cette communion qu'ils avaient, qu'ils voyaient dans la maison lorsqu'ils étaient avec papa. Il y avait cette soif qui était dans la maison. Ils n'étaient peut-être pas en contact avec Dieu à ce moment-là, mais ils voulaient avoir cette paix. Vous savez, lorsque vous êtes à un endroit où il y a une grosse onction, vous bénéficiez de cette onction. On le sent, hein, on le sent. Quand le pasteur Bruno et Marjorie ne sont pas là, il y a des choses qui ne sont pas comme d'habitude. On bénéficie, quand on est sous le leadership de quelqu'un, de l'onction qui est sur sa vie, de l'influence qui est sur sa vie. Quand tu es dans la maison des parents qui prient, des parents qui cherchent Dieu, tu es sous cette grâce-là. Mais quand tu te retrouves seul, hein, seul, seul, c'est là où tu apprends à connaître Dieu. Fuyons le légalisme. Le légalisme, c'est quelque chose qui... Comprenez-moi bien, je ne veux pas... je n'indexe pas quelqu'un ce matin. Hein. C'est entre nous. On est entre frères, non? On s'exhorte dans la foi. On s'encourage. Exhorter, ça veut dire on s'encourage. Donc, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le légalisme frappe surtout les vieux chrétiens. Les gens qui ont de l'âge en Christ. Je dis bien de l'âge. Pas qu'ils sont mûrs, mais qui ont duré en Christ. Ils ont vu des vertes et des pas mûrs. Ils ont vu plein de choses. Le légalisme, vous pouvez le voir, et nous allons essayer de nous attarder sur cette histoire. L'histoire du fils prodigue et du fils aîné. Dans Luc 15. Du verset 11 à 32. Le fils prodigue, vous connaissez cette histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Un jeune dit à son père, « Papa, bon, donne-moi la part de bien qui me revient, je vais aller vivre ma vie. » Il va vivre sa vie à Montréal, puis bon, il a un bel héritage, il achète des choses qui n'ont pas de valeur, il vit, il dépense tout ce qu'il a. Par la belle vie, quoi. Il rencontre, il voit qu'il y a des boîtes de nuit, il voit qu'il y a des belles choses, il dépense. Et un beau jour, il n'a plus rien. Et il doit travailler. Il ne trouve pas de job. Le seul job qu'il trouve même, c'est de garder des cochons. Il garde les cochons et il voit même que les cochons ils ont une bonne nourriture. Il veut manger la nourriture des cochons. Imaginez, un enfant qui était dans la gloire de son père. Son père avait des biens, des richesses, des héritages à Québec. Et il va à Montréal et il commence à envier la nourriture des cochons. Là, il s'est dit, non, là, je suis à un niveau, là, non, là, ça n'a pas d'allure, là. Il faut que je me ressaisisse. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Il s'est dit, non, là, il faut que je retourne chez mon père. Je ne peux pas continuer ainsi. Il revient chez son père. La Bible déclare que son père l'attendait. Oh God! Son père l'attendait au bas de la maison. Il attendait jour après jour que son fils revienne. Que son fils revienne à la maison. Son père l'aimait tellement. Son père avait un souci pour lui. Il priait pour lui. Il voulait qu'il revienne. Parce qu'il savait que son bien, son réconfort était d'être auprès de lui. Et quand il revient à la maison, son père le rétablit, il fait une fête en son honneur. Mais nous avons le fils aîné qui nous intéresse ce matin. Le fils aîné, entend des bruits dans la maison de fête, etc. Il est en train de travailler, il fait sa tasse, sa job, il est un gars consciencieux, il sert dans la maison, vraiment très consciencieux. Et il entend qu'il y a une fête, il demande, qu'est-ce qui se passe là? Oh, mais tu ne sais pas, mais ton petit frère est arrivé là, bon, papa, il a décidé de faire une fête à son honneur. Et nous tombons au verset 29, que sûrement Patricia va mettre à l'écran. Déjà au verset 28, on nous montre que celui-ci s'est mis en colère parce que son frère était revenu à la maison et que son père avait fait une grande fête en son honneur. Et il va dire à son père au verset 29, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, ton fils là, quand il est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Son père lui répond, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements de l'attitude de ce fils dans la maison. Souvent, nous sommes comme lui dans la maison de Dieu. On vit dans des frustrations pas possibles quand Dieu bénit les autres. Nous sommes dans une aigreur, et c'est mon épouse qui prêche ça souvent. Tu es dans une aigreur pas possible. Et là, je n'indexe pas les sœurs qui cherchent les frères, qui cherchent à se marier. Comprenez-moi, c'est juste des exemples. Tu es dans une aigreur parce que la sœur en Christ qui vient d'arriver même à l'église hier là, elle se marie même pas 2 semaines. Un frère l'a repéré et l'a épousé. Toi, tu es là depuis des années. Tu sers Dieu, tu es dans la maison, mais rien. Tu es dans une aigreur, tu ne comprends pas que ce frère-là qui vient d'arriver, il ne connaît même pas encore tous les principes du royaume, les lois de Dieu. Il ne connaît pas ces principes, mais Dieu le bénit. Dieu lui donne des opportunités, Dieu lui donne un travail à Québec, alors que le terrain est souvent difficile. Dieu le bénit. Tu ne comprends pas. Toi, tu es dans la maison de Dieu, tu sers. Est-ce qu'il y a un problème? Mes bien-aimés, le problème n'est pas l'autre. Ne sois pas écrit par rapport à l'autre. Le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. Tu ne comprends pas que ce qui appartient au Père t'appartient. Tu ne comprends pas que ce qui est au Père est à toi. Tu ne comprends pas le cœur du Père. Tu n'es pas en communion avec le cœur du Père. Tu ne sais pas pourquoi le cœur du Père bat. Le cœur du Père battait pour son fils qui était perdu. Beaucoup de légalistes n'ont pas le cœur qui bat pour les perdus, pour ceux qui sont dans la rue, qui ont besoin de nourriture. Des veuves et des orphelins qui n'ont pas de repères, qui ne savent pas comment se nourrir. Le légaliste ne se préoccupe pas du cœur de Dieu parce qu'il n'est pas en communion avec son Père. Il ne comprend pas le cœur de son Père. Mais bien aimé, même si tu travailles dans la maison de Dieu, même si tu sers le Seigneur, ce n'est pas pour cela que Dieu va te faire un repas. C'est pas parce que tu es dans la maison de Dieu que tu le sers assidûment que Dieu va faire un festin pour toi, mais il fera le festin pour le nouveau converti qui vient d'arriver. Pour celui qui vient d'arriver, il va faire un festin. Pourquoi il fait cela? Parce que pour lui, en tant que fils, il y a quelque chose qui doit changer un peu dans ta tête là. Si ton enfant te dit à la maison, « Papa, est-ce que je peux aller ouvrir mon frigo, le frigo de la maison, et prendre un sandwich ?» Il y a un problème. Je vous dis, il y a un problème dans ta maison. Ton enfant doit être libre. C'est vrai qu'il peut avoir des règles dans une maison, mais ton enfant doit être libre dans ta maison. Il doit être libre de manger, de se servir. Et nous, en tant que chrétiens légalistes, souvent nous ne comprenons pas qu'il est important pour nous de changer notre compréhension de comment Dieu fonctionne. Comme un homme de Dieu le disait, de prendre possession de nos possessions. Nous devons apprendre à prendre possession de ce qui est à nous en Christ Jésus par la foi. Tu veux la guérison? Fais comme la femme qui avait une perte de sang décide de te frayer un chemin dans la foule et de saisir le pan de la robe de Jésus. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu ne peux pas attendre que le Père te fasse une fête, te donne ce que tu veux. Mon bien-aimé, tu seras déçu. Le Père veut un fils dans la maison qui est conscient que ce qui lui appartient, l'appartient. Prends possession de ton héritage. Le peuple d'Israël, s'ils étaient dans cette attitude, ils ne seraient jamais entrés en possession de Canaan. Pour que tu rentres en possession de Canaan, tu dois traverser le Jourdain et commencer à terrasser les Amalécites, les Philistins, tout ce monde-là qui sont assis sur ta destinée. Tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever pour prendre possession de ton héritage en Christ. Mais vous savez, aussi longtemps que l'héritier que nous sommes comme des enfants, nous ne sommes pas différents de l'esclave dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous ne sommes pas des esclaves dans la maison de Dieu. Nous sommes des fils. Et ce qui est à Dieu nous appartient. Vous savez, il y a des attitudes de cœur, il y a des tristesses que je n'autorise plus dans mon cœur. Ça peut arriver que je vois ça venir, que je vois ça veut s'installer. Mais je dis, je te reconnais, tu ne vas pas prendre place dans mon cœur. Je le décrète, je me positionne pour ne pas accepter d'être dans la tristesse, même si légitimement je peux être dans la tristesse. Mais c'est une décision que seul un fils peut prendre. De vivre non pas comme une victime, mais comme un victorieux. Il y a des moments, tu dois te lever. Jamais arrivé. Le diable nous ballottait dans notre dossier d'immigration avec ma famille, vous connaissez. À un moment, je me suis dit, j'étais dans mon 5,5 vide. J'attendais ma famille. Le dossier devait être clos en une semaine ou deux. Et puis, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ça a commencé à prendre du temps. J'ai loué le 5,5 là pour accueillir ma famille. Et puis, ça prend encore du temps. C'est quoi ça? 3 mois, 4 mois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû me lever dans la prière. Seigneur, peu importe l'origine de ce qui se passe, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas quelles sont les entités. Je ne sais pas quelle est l'entité qui bloque ce dossier. Mais ce matin, au nom de Jésus, je me suis levé. Je vous ai déjà même raconté ça. J'ai commencé à prendre ma guitare, à louer les bienfaits de Dieu dans mon appartement. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et toi, mon roi, toi, mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. J'ai commencé à proclamer la parole de Dieu. L'atmosphère devait changer. Et quelque chose s'est passé. Mon épouse est là, mes enfants sont là. Dieu agit. Vous savez, il y a des situations que tu vis, que tu vis, que tu vivras encore. Tant que tu ne te lèves pas, tu les vivras encore. Il y a des moments où il faut se lever. Peu importe la durée de la nuit, peu importe la durée du problème que tu vis, si tu as cette attitude, tu verras la lumière. Peu importe la durée, tu verras la lumière. Mais tout dépend de ton attitude. Ne remets jamais en cause de Dieu. N'accuse pas Dieu comme le Fils est né. C'est à cause de toi. Moi, je suis là depuis là. C'est toi. N'accusons pas Dieu. N'accusons pas le Père. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné des armes. Des armes. Lorsque tu es confronté à des combats, Dieu nous a donné des armes. Des armes. Les armes spirituelles. Vous le verrez, je pense, dans Éphésiens 6. Des armes. Dieu te demande ce matin de simplement te revêtir de ces armes. Revêt-toi des armes que Dieu te donne quand tu es dans le combat. Quand tu es dans le combat, n'accuse pas Dieu. Mais prends conscience que tu as besoin de mettre à terrain la vérité pour ceinture, à ta poitrine, la cuirasse de la justice. Tu dois mettre à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu dois mettre sur ton bras le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Tu dois mettre sur ta tête le casque du salut parce que l'ennemi veut bombarder tes pensées, des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Tu mets sur ta tête le casque du salut, le salut, le salut. Le salut, c'est que Dieu t'aime. Le salut, c'est que Dieu a de bonnes choses pour toi. Le salut, c'est que Dieu veut te guérir. Le casque du salut, tu mets à tes mains l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu prononces la parole de Dieu. Mes bien-aimés, sortons du légalisme pour être des outres neuves. Apprenons à communier avec le cœur du Père. Repositionnons-nous dans notre identité en Christ pour prendre possession de notre héritage. Le deuxième principe que j'aimerais communiquer avec vous ce matin, c'est que ce sont les outres neuves ou renouvelées qui peuvent contenir de manière durable le vin nouveau. Il faut que nous soyons transformés, renouvelés pour recevoir le vin nouveau. Si nous ne voulons pas courir le risque d'échouer dans notre vie chrétienne, nous devons apprendre à nous renouveler. Renouvelle-toi dans la présence de Dieu. Ne tombe pas dans la religion, ne tombe pas dans l'activisme. Renouvelle-toi dans la présence de Dieu. Renouvelle-toi dans la communion avec Jésus. C'est un processus. Dieu veut t'inscrire dans ce processus de renouvellement continuel. Passe de transformation en transformation dans la présence de Dieu. Romains 12, 1 à 12 dit ceci. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version Parole de vie dit ceci, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté. Dieu est bon. Dieu est plein de bonté. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne. Offrez-lui votre personne. Je ne sais pas comment le dire ce matin. Offrez-lui votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Offrez-lui votre personne. Offrez-lui votre personne. Votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Offrez-vous à Dieu. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Il y a quelqu'un de merveilleux. Je vais aller rapidement dans cet exemple pour clore. Un disciple merveilleux qui montre bien cette pensée d'être renouvelé dans notre compréhension de Dieu, dans notre compréhension de qui est Dieu. d'être renouvelé dans la présence de Dieu, d'être transformé dans notre caractère. Beaucoup de chrétiens veulent du vin nouveau, mais ils ne veulent pas être transformés dans leur caractère. Le vin nouveau vient dans un caractère renouvelé. Si tu ne reçois pas, si tu reçois le vin nouveau avec un caractère pourri, ton outre va se briser. Tu vas te perdre, et on le voit. Des gens qui sont remplis d'onction, mais dont le caractère amène des dégâts dans leur ministère. C'est l'exemple de Pierre que j'aimerais que nous prenions ce matin. Pierre, c'est quelqu'un de fantastique que j'aime. C'était un des rares au milieu des disciples là qui aimait contester ce que Jésus disait. Jésus dit un truc, il dit, jamais ça n'arrivera, jamais, jamais ça n'arrivera. On le voit par exemple dans Matthieu 26, du verset 31 à 35. Alors que Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après avoir ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus leur dit même tout ce qui va se passer. Il leur dit le programme. Le programme après qu'il soit mort, ce qui va se... Jésus leur dit tout. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus a parlé. C'est Dieu. Il connaît toutes choses. Il te dit que quand on frappe le berger, tout le monde fuit. Si on frappe le berger, tout le monde fuit. Mais il dit non. Même si ça arrive, hein, moi là, je suis avec toi, on est ensemble, Jésus. Jésus lui dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples, comme c'était un leader, tous les autres ont embarqué dans cette attitude-là, à cause de lui. Et il avait quelque chose de particulier, ce Pierre. C'était un leader, il avait des qualités, c'était un chef. Mais un chef qui n'était pas conscient de ses limites. Un chef qui n'était pas renouvelé dans sa compréhension de Dieu et même de lui-même. Il pensait que non, rien ne peut l'empêcher d'être avec Jésus, peu importe ce qui va se passer. Mais bien aimé, mais il y a quelque chose que Dieu a prévu pour révéler qui nous sommes. Ça s'appelle l'épreuve. L'épreuve révèle notre christianisme. L'épreuve révèle si tu, tout ce que tu disais là sur l'estrade, quand tu prêchais, comme je le fais ce matin, si vraiment tu le vis, l'épreuve. Et Pierre va passer par l'épreuve. Et cette épreuve-là, c'est simple. Hein? C'est une vieille femme qui va lui dire, mais toi là, je t'ai vu avec Jésus. Hein? Toi, là, toi aussi, tu étais parti du lot là. Que, quoi? Moi, tu as bien vu? C'est faux. L'épreuve. Mais bien aimé, notre capacité vient de Dieu. On a la volonté, mais on n'a pas la capacité. Il y a des moments où il faut comprendre ça. Qu'on a la volonté de bien faire, mais on n'a pas la capacité. La capacité nous vient de qui ? Dieu. Mais c'est un virement qu'il faut avoir dans ta tête. Que tu ne peux pas tout. Tes bonnes intentions, tu ne peux pas les accomplir si Dieu ne te le permet, si Dieu ne te donne la capacité de le faire. Nous pouvons être sincères souvent dans nos déclarations. Je ne dis pas ici que Pierre n'était pas sincère. Il était sincère. Mais il n'avait pas
la puissance. Le vin nouveau n'était pas encore là. Pour arriver à comprendre cela, tu dois... Il y a des moments, hein, mes frères, il faut que l'on redescende de notre piédestal. Pierre était orgueilleux. C'est le mot. Il était orgueilleux. Comme beaucoup d'entre nous, nous sommes orgueilleux. On pense qu'on peut tout faire sans Dieu. On pense qu'on peut faire des choses sans Dieu, sans prier. On pense que notre vie, on peut l'amener comme on veut. On pense qu'on peut faire des plans. Demain, je vais faire ci, je vais faire cela. Que Dieu soit dedans, qu'il ne soit pas dedans, on va le faire. On pense ça. Il y a des moments, il faut que l'on redescende. Et l'épreuve va t'amener à redescendre un peu. Et on le voit chez Pierre. On le trouve maintenant, notre Pierre, en Jean 21, 15 à 17. On va lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, et là on est déjà passé par plusieurs choses, hein. Jésus est ressuscité, et puis bon, Jésus revient au milieu d'eux, il se révèle, etc. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous ceux qui sont ici, ne m'aimes? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit encore, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit encore, paie mes brebis. Il dit encore pour une troisième fois, et Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Vous voyez un peu la différence? L'orgueilleux qui avait avant là, qui pensait que. Il dit à Dieu, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Lorsqu'on examine de près cette conversation, et j'ai essayé de comprendre cette conversation, et qui montre comment Pierre a changé. Quand Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Il utilise l'expression grecque. L'expression grecque qui est employée, c'est, dans le mot aimer, c'est, en fait, faire référence à agapao, ou l'amour agapé. C'est-à-dire cet amour sans condition. Cet amour qui est total, qui implique un engagement total. Dieu, Jésus, quand il demande, Père, m'aimes-tu? C'est cet amour-là dans lequel il veut engager Pierre en lui posant la question, l'amour agapao. Mais Pierre, lorsqu'il répond à Jésus, le texte grec montre qu'il n'utilise pas la même expression, agapao. Pierre utilise plutôt le terme grec de phileo. C'est une expression grecque qui présente plutôt une affection amicale. Pierre semble ici, en fait, faire preuve un peu d'humilité. Cette expression montre Pierre semble ici manifester une forme d'humilité en n'osant pas placer son amour pour Jésus au niveau supérieur. Il dit à Jésus que non, je ne pense pas. Je t'aime, c'est vrai, mais avec tout ce que j'ai vécu là, je ne sais pas si mon amour est au niveau que tu veux là. Mais tu sais toutes choses. Je t'aime. Il est descendu un peu. Et nous avons besoin aussi de ça souvent, de descendre un peu. Et devenir humble devant Dieu. Et comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pierre s'est laissé transformer par Dieu. Et ce Pierre qui a été transformé dans son intelligence était prêt à accueillir le vin nouveau. On n'a pas étonné qu'en acte 2, ce Pierre se soit levé pour parler de la part de Dieu. Et la Bible déclare qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont été transformées, guéries, régénérées par la prédication de Pierre. Il y a quelque chose qui a changé dans son caractère. Ce Pierre, on le voit encore. Vous connaissez la Bible. quand il a une opposition avec Paul concernant les gentils, il ne fait pas prévaloir, c'est moi que Jésus, à qui Jésus a donné les clés, comme on le chante chez les autres là-bas. Les clés du paradis sont à moi. Il n'a pas fait prévaloir que c'est lui le leader. Il pouvait. Mais il s'est effacé. Il a reconnu que oui, celui-là, il a raison. Mon attitude n'était pas bonne dans cette situation. Un homme humble, transformé par Dieu. Mon bien-aimé, c'est la parole que j'avais pour toi ce matin. Je ne sais pas où tu te positionnes pendant que Benjamin vient nous donner un petit son. Je ne sais pas où tu te positionnes par rapport à Dieu. Est-ce que tu es un légaliste, comme je l'étais? Ou même quand il y a encore peut-être quelques éléments, mais je vais prier. Je ne sais pas où tu te positionnes par rapport à ce message. Est-ce que ce matin tu as besoin d'un vin nouveau? Est-ce que tu es conscient que tu as besoin de Jésus? Que tu as besoin d'être rempli de lui? Que tu as peut-être la volonté, mais tu n'as pas la capacité d'accomplir la volonté de Dieu sans une intervention divine de Dieu. Est-ce que tu es conscient que ce matin, tu dois changer de bord, te changer ton système de pensée pour épouser le système de pensée de Dieu? Nous allons nous recueillir et nous présenter à Dieu pendant que Yami va chanter ce chant.
Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce.